Comme le disaient les inconnus, il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur. De la même manière, il y a le bon lean et le mauvais lean. Bienvenue dans le podcast Lean et Lead, hein, le podcast qui aborde les aspects pratiques du lean management et du leadership pour avoir des entrepreneurs efficaces au service d'entreprises efficaces. Alors, qu'en est-il vraiment de cette histoire de bon lean et de mauvais lean? Alors on pourrait continuer l'analogie, la comparaison avec le sketch des inconnus. Bien, dans le bon lean, un consultant qui arrive et puis qui applique des méthodes du lean management ou du lean manufacturing. Alors que dans le mauvais lean, bien, il y a un consultant qui arrive et qui applique des méthodes du lean management ou du lean manufacturing. Mais c'est du mauvais lean. Alors que le premier, ben voilà, c'est du bon lean, quoi. Et oui, il applique, mais c'est du mauvais lean. Alors en fait, c'est parce que de l'extérieur, il n'y a pas forcément beaucoup de différence. Parce qu'en réalité, ben dans le lean, il n'y a pas. On n'a pas réinventé la roue, hein, c'est quelque chose qui est connu depuis longtemps. Il y a beaucoup de principes qu'on présente comme très modernes et très sophistiqués, mais qui en fait existent depuis longtemps. Donc, je pense que ce sera intéressant d'en parler d'ailleurs en prenant l'exemple des 5S et comme quoi les 5S, eh bien, c'est pas quelque chose qui découle du système de production Toyota, ça existait déjà depuis bien longtemps. Mais revenons-en à notre histoire de bon lean. Alors, en fait, le problème, c'est que le lean, justement, est souvent présenté comme une méthode ou comme un ensemble d'outils. Alors qu'en fait, bien déjà, le lean en soi, ça n'existe pas vraiment. Le lean, ça découle du titre d'un livre, Lean Thinking, qui a été écrit au début des années 2000, hein, par James Womack et Peter et Daniel T. Jones, qui présentait l'adaptation du système de production Toyota, en tout cas en partie, dans différentes entreprises, en différents endroits du monde. L'objet de ce livre, c'était de montrer que, eh bien, en fait, ces approches fonctionnaient, quel que soit le type d'entreprise, quel que soit le secteur économique et quel que soit le secteur géographique. Et que ce n'était donc pas forcément lié uniquement à l'industrie automobile au Japon. D'ailleurs, en l'occurrence, hein, si on prend juste le Japon, on verra que bien, le système de production de Toyota il est très présent chez Toyota, mais pas tant que ça dans beaucoup d'autres entreprises japonaises, hein, contrairement à ce que certaines légendes ont fait croire. Mais là, en fait, ce qu'il y a, c'est que ben, Lean, ça ne veut pas dire grand-chose, hein. Eux, ils ont appelé ça Lean, eh bien, sans doute parce que beaucoup des projets qu'ils ont suivis ont permis de réduire la taille des entreprises et de les rendre plus lean, plus minces. En fait, bien, si on se penche vraiment sur les principes, c'est pas ça l'important. Et le problème, ben, c'est que beaucoup ont été prendre le Lean, ont été regarder les différents outils et les différentes méthodes qui ont été utilisées, en ont fait un catalogue et ensuite ressortent le catalogue à chaque fois qu'il y a des projets Lean. Alors forcément, ça finit par prendre une très mauvaise image parce qu'on finit par voir dans le Lean un ensemble de méthodes plus ou moins adaptées, plus ou moins bonnes dans le contexte, qu'on plaque comme ça en copier-coller sans forcément réfléchir aux objectifs. Je parlais déjà des 5S, hein, donc des chantiers ordre. Si on n'a pas compris ce que c'était, on va mettre en œuvre sans avoir bien réfléchi à pourquoi on le faisait. On en revient comme toujours à la question fondamentale, hein, pourquoi? D'ailleurs, prenons ça comme exemple de bon lean et de mauvais lean. On va mettre en place un chantier ordre, hein, on va faire les 5S dans des bureaux. Et on va donc prendre l'outil tel qu'il est présenté dans un contexte industriel. Dans un contexte industriel, on va penser à un point quand même important, c'est que bien, dans notre premier élément, hein, donc ordre, je le rappelle, hein, c'est déjà le premier élément, le premier S, hein, c'est O pour ôter, on va supprimer tout ce qui n'est pas nécessaire dans la zone. Deux, c'est R, c'est ranger, on va mettre chaque chose à sa place et on va définir une place pour chaque chose. 3, c'est le D, c'est dépoussiérer, c'est le nettoyage, c'est faire en sorte que tout soit propre. Le 4, R, il est très important, c'est rendre évident. Alors, certains parlent de standardisation. Moi, je préfère parler de rendre évident. Enfin, le dernier élément, le E, c'est être exigeant, c'est la pérennité, c'est comment on rend ça en amélioration continue, hein, et qu'on ne retombe pas, et donc ça, mais en fait, ça demande de l'exigence. Eh bien, si on va aller appliquer bêtement les 5 S, hein, donc ordre dans un contexte de bureau, on va commencer par le premier point, O pour OT, et on va comparer par rapport à un atelier. Alors, dans un atelier, c'est dangereux, hein, un atelier de production. Quand on a des accidents de travail dans un atelier de production, ben voilà, on croise des gens qui ont des doigts en moins, voire pire. C'est particulièrement dangereux. Il y a des machines qui tournent avec des forces considérables. Et donc, on doit vraiment s'assurer qu'il n'y a rien de superflu dans un atelier. On ne va rien tolérer. Tout ce qui n'est pas directement utile au travail, on va le retirer. Ça, c'est le premier point. C'est le O pour OT. Dans des bureaux, il y a beaucoup de choses qui ne contribuent pas directement au travail. Il peut y avoir des plantes, il peut y avoir la photo de sa famille sur le bureau. Et si on applique bêtement la méthode sans réfléchir au principe derrière, on va retirer la plante parce qu'elle ne contribue pas directement au travail. On va retirer la photo des enfants parce que ça ne contribue pas directement au travail. Et ça, ce sont des exemples réels, hein. Ce n'est pas des choses que j'invente, des exemples que j'ai réellement vus et qui, évidemment, eh bien, montrent qu'on n'a pas compris le principe. Ôter, eh bien, c'est ôter tout ce qui n'est pas nécessaire dans la zone. Dans un contexte industriel, c'est pratiquement tout. Tout ce qui ne contribue pas directement à la valeur ajoutée va être retiré, et aussi pour des raisons de sécurité. Dans un bureau, la plante verte, elle contribue simplement bien au cadre et donc à l'ambiance qu'il peut y avoir. La photo des enfants, bien, ça ne prend pas beaucoup de place, ça ne gêne pas le travail et au contraire, bien, c'est aussi un moyen pour un employé derrière son écran de garder contact visuel avec sa famille et ça lui permet de s'évader et ça lui permet simplement d'avoir une journée plus sympathique et d'être au final plus efficace au travail. Alors, c'est pas quelque chose qu'on va retirer. Pourtant, j'ai vu beaucoup de projets où on faisait un chantier ordre dans des bureaux et on retirait tout ça. Alors forcément, ça ne marche pas. D'ailleurs, j'ai un article sur le site Vitis Consult qui parle de ces cas particuliers, des études, je dirais vraiment foireuses, pour essayer de démolir l'intérêt des chantiers ordre par des gens qui n'ont absolument pas compris quels étaient les principes derrière. Je rentre un peu plus dans les détails dans cet article et une vidéo associée. Maintenant, si on continue à aller plus loin, dans l'application bête de la méthode sans avoir compris les principes, dans le mauvais lien, déjà on a retiré tout ce qu'il y avait dans le bureau, puis ensuite, voilà, on a fait le dépoussiérer, donc en gros on va avoir passé un coup de balai parce qu'on n'a pas compris que l'intérêt de dépoussiérer, ce n'était pas juste de nettoyer, mais c'était de faire en sorte de diminuer le besoin de nettoyage. Donc, on va passer sur cet élément-là, mais on arrive au rendre évident, alors que beaucoup mettent pour standardiser. Et là, on arrive à des choses, alors des fois, je me demandais si c'était vraiment des blagues quand je voyais ce genre de photos, mais on en arrive quand même à des gens qui vont même aller marquer l'emplacement de la souris avec un petit peu de scotch noir, comme on marque des machines ou des emplacements dans les ateliers. La différence, c'est que dans les ateliers, encore une fois, on a besoin de bien marquer les emplacements, parce qu'il y a un côté sécurité, puis on va marquer les emplacements du matériel qui arrive ou du matériel qui doit partir, parce que ça nous permet aussi de rendre évident les flux, on les rend visibles, et on voit si on est bien en train de produire à la bonne vitesse, les bonnes quantités, au bon moment. Donc le marquage que l'on fait dans un atelier, il a cet objectif-là. Il est là pour rendre évident. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de rendre évident l'emplacement de la souris ou du clavier sur un bureau? Est-ce qu'on considère que nos employés sont à ce point stupides qu'ils ne savent pas qu'il faut qu'ils posent le clavier devant eux? ou alors que la souris va être sur le côté. Et si on a un employé gaucher, est-ce qu'il va falloir qu'il se torde pour pouvoir utiliser la souris qui a été matérialisée à droite? Ça, c'est un exemple de mauvais lean. On a appliqué en apparence exactement la même chose. On a la méthode, on l'applique, mais on l'applique aveuglément, sans comprendre pourquoi on le fait. Et ça, c'est cette question qu'il va falloir se reposer tout le temps lorsqu'on applique du lean management. Parce que ce qui marche dans un contexte et pour certaines personnes ne va pas forcément marcher dans un autre contexte. Et ce qui a parfaitement du sens dans un contexte, comme ici un marquage au sol pour de la matière qui arrive sur une ligne de montage, n'a pas forcément de sens dans un autre contexte, comme aller marquer l'emplacement du clavier sur un bureau avec du scotch noir. Malheureusement, ces exemples qui ont l'air caricaturaux sont des exemples que j'ai réellement observés dans des vraies entreprises où il y a eu de vrais chantiers ordre, des chantiers 5S qui ont été mis en œuvre. Voilà ce que c'est que le bon lean et le mauvais lean. Ça a l'air très similaire, l'approche a l'air d'être la même, mais en réalité, eh bien, ce qui en sort, c'est surtout que quand on fait du bon lean, en fait, on se pose toujours la question du pourquoi. Et ça nous permet de comprendre les principes des outils et des méthodes qu'on met en place, et donc de voir si c'est adapté et surtout comment l'adapter au contexte. Et c'est ça toute la différence entre le bon lean et le mauvais lean.